journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Et à la une, la chute d'une figure de la jet set aux États-Unis, Ghislaine Maxwell, jugée coupable de crimes sexuels au terme de son procès. Pour le tribunal, elle a bien joué le rôle de rabatteuse pour son compagnon Jeffrey Epstein. Nous serons sur place. L'outre-mer n'est pas épargné par le raz-de-marée Omicron. Retour du couvre-feu à La Réunion dès ce week-end. À l'Assemblée nationale, le pass vaccinal en commission hier soir. Les députés se déchirent toujours sur les contrôles d'identité. Au sommaire aussi, l'énergie nucléaire peut-elle être considérée comme durable? On sera bientôt fixé sur l'avis de Bruxelles, enjeu majeur pour la France. Et puis, quelle fin pour nos sapins? Vous l'entendrez, après Noël, les arbres invendus terminent parfois au zoo.
Dans 20 minutes, un premier roman pour un éditeur passé de l'autre côté le temps d'un livre. Manuel Carcassonne, patron des éditions Stock, publie un essai autobiographique intitulé Le Retournement. Il est l'invité de 7h50.
France Inter.
Il paraît très loin le temps où elle occupait la chronique mondaine.
Cette nuit, Ghislaine Maxwell est sortie la tête basse du tribunal de New York. Après 5 jours de délibération, verdict accablant contre la richissime héritière, ex-compagne de Jeffrey Epstein.
Un jury à l'unanimité a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer.
Les mots très forts du procureur new-yorkais, on parle de crimes sexuels, notamment quand elle a joué le rôle de rabatteuse pour son compagnon, mort en 2019. Les explications sur place de Sébastien Paour.
Le multimillionnaire ne sera jamais jugé. Il s'est suicidé en prison il y a un peu plus de 2 ans, mais celle qui était son associée et sa compagne est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient sur elle, sauf un. Coupable de trafic sexuel, coupable d'avoir aidé à recruter, d'avoir transporté et préparé des jeunes filles mineures entre 1994 et 2004 pour qu'Epstein en abuse. Seule l'accusation qui concerne le déplacement entre États de l'une des 4 jeunes femmes qui ont témoigné au procès n'est pas retenue par le jury. Jury composé de 6 femmes et 6 hommes. La procureure a décrit Ghislaine Maxwell comme une prédatrice sophistiquée à l'audience, à la fois partenaire en amour et bras droit du financier, personnage central, complice du système qu'il avait mis en place. Des filles de 14 ans payaient $300 pour des massages qui se terminaient toujours en actes sexuels. Des rendez-vous fixés par Ghislaine Maxwell, par exemple dans la villa de Palm Beach en Floride de Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell a eu 60 ans le jour de Noël. Elle est en prison depuis l'été 2020. Elle devrait y rester plusieurs dizaines d'années. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et il n'y a pas de date fixée encore pour le prononcé exact de la peine. L'avocate de Ghislaine Maxwell annonce ce matin qu'elle va faire appel.
En Ile-de-France, des millions d'habitants vont devoir remettre le masque dans la rue.
À Paris, mais aussi dans le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et les agglomérations de l'Essonne et des Yvelines. Retour du masque obligatoire partout à l'extérieur dès demain. Face à la flambée Omicron, la préfecture de police impose aussi la fermeture des bars parisiens à 2h du matin la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais pas de couvre-feu pour l'instant, contrairement à l'île de la Réunion où dès ce week-end, il sera de nouveau interdit de sortir entre 21h et 5h du matin. Et c'est le retour de l'attestation dérogatoire pour les Réunionnais. Rémi Brancato.
Sur la plage des Roches Noires à Saint-Gilles, les derniers clients des restaurateurs réunionnais seront accueillis en soirée pour le réveillon. Après cela, Aurélien Hernandez à la Palmeraie sera bien obligé de fermer à 21h pendant 3 semaines.
Pour le moral et le mental, c'est de plus en plus compliqué pour nous. C'est très dur pour nous de trouver du personnel aujourd'hui.
Selon lui, depuis 10 jours, les gestes barrières sont moins respectés.
Avec l'arrivée des touristes, parce que c'est les vacances, parce qu'il fait beau, les lois et les règles n'existent plus. Ça se traduit par les serveurs qui sont pris à partie parce qu'on est obligé de faire la loi à longueur de journée.
La population de la Réunion n'est vaccinée totalement qu'aux 2/3 et avec le variant Omicron et les rassemblements de Noël, les cas explosent, 700 par jour.
Et on voit qu'on ne peut pas reprendre une vie normale tant qu'on n'est pas vacciné complètement.
Christine Kowalczyk, la présidente de l'Union régionale des médecins libéraux, s'alarme car même si le taux d'incidence est plus faible qu'en métropole, le couvre-feu s'imposait, selon elle, l'hôpital est proche de la saturation.
Il y a d'abord des gens plus fragiles, plus jeunes. On a un taux de pathologie comme l'obésité qui est plus important, mais dès les 40-50 ans, et on voit que l'épidémie touche cette tranche d'âge-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'aura pas assez de lits à réanimation, donc il faut mieux prévenir que de faire des choix en réanimation, c'est clair.
Les lits de réanimation qui sont occupés à 95%, alors pour en ouvrir d'autres, l'Agence régionale de santé prévoit de fermer 13 blocs opératoires.
Et au niveau national, après les 208 000 cas d'hier, comment l'épidémie l'épidémie peut-elle évoluer? Vous retrouvez les modélisations de l'Institut Pasteur sur franceinter.fr. Pour contrer cette déferlante, l'exécutif compte sur le pass vaccinal. En commission hier soir à l'Assemblée, les députés ont introduit quelques nouveautés par amendement, comme l'adaptation des jauges proportionnellement à la capacité d'accueil de chaque salle ou de chaque stade. Mais l'un des principaux points de crispation, ça reste le contrôle de l'identité des détenteurs du pass. William Delesseux au Palais Bourbon.
Lutter contre les passes frauduleux est devenu nécessaire, reconnaît-on chez les Républicains, mais ce n'est pas l'affaire des restaurateurs et autres gérants d'établissements, souligne le député Yann Boucard.
Mais c'est là que le gouvernement doit agir, faire des contrôles. Mais ce n'est pas la responsabilité des commerçants, leur responsabilité c'est de faire à manger, c'est de servir, c'est de vendre. Ce n'est pas de contrôler l'identité de leurs clients. Et puis ça pose une question de responsabilité, est-ce que le serveur va être responsable demain si vous vous présentez un faux pass vaccinal, alors que ce n'est pas sa responsabilité.
Le député dépose un amendement, Hugo Bernalicis de la France Insoumise, 60 amendements dans son groupe Bataille, lui aussi contre ce contrôle possible en cas de doute.
C'est quoi un doute plausible? C'est votre tête qui me revient pas, c'est ça? C'est comme ça que ça va se passer? C'est ça qu'on veut dans ce pays aujourd'hui? Avoir un contrôle généralité alors qu'on sait que c'est une fuite en avant qui ne permet pas de gérer la pandémie.
Et la majorité veut rassurer.
C'est un point de débat qui est légitime.
Guillaume Gouffier-Chat, député La République En Marche.
C'est normal que dans un moment où nous devons lutter contre cette épidémie, où nous mettons en place le pass vaccinal, eh bien on ait les outils de vérification de l'identité des personnes qui fréquentent les établissements publics.
Face à la levée de boucliers, pas question de reculer mais de préciser, le passage en question sera réécrit. La nouvelle mouture prévoit une vérification de concordance documentaire entre le futur pass vaccinal et un document d'identité.
Et tout cela se jouera lundi en séance publique à l'Assemblée nationale.
Et puis on attend toujours, Alexis, ce matin, les nouvelles règles d'isolement.
Pour les cas positifs et les cas contacts, de plus en plus de pays raccourcissent les durées de quarantaine. Après les États-Unis, c'est le cas ces dernières heures de l'Argentine, de l'Italie ou encore de l'Espagne. Là-bas, l'isolement des personnes contaminées passe de 10 à 7 jours. À part cela, il n'y a quasiment plus de restrictions nationales en Espagne. Tout dépend en fait maintenant des régions, Mathieu de Taillac, et ça va d'un extrême à l'autre.
Les 17 régions espagnoles sont compétentes en matière de santé publique et les mesures anti-Covid varient beaucoup d'une communauté autonome à l'autre. De la rigueur catalane, couvre-feu et passe sanitaire, aux libéralités madrilènes, ni l'un ni l'autre, l'éventail est large. Quant aux mesures nationales, il y en a peu face à Omicron. L'obligation de porter le masque à l'extérieur, tout de même, le chef du gouvernement a justifié hier sa politique, Pedro Sánchez.
Je crois que nous devons préserver un équilibre entre trois aspects importants. Premièrement, la santé publique, sans aucun doute. Je l'ai démontré pendant ces 20 mois de pandémie, surtout lors des moments les plus difficiles, les confinements que tout le monde n'a pas défendus. Deuxièmement, la santé mentale, qui est très importante. Et troisièmement, la croissance économique. C'est sur ces trois éléments de réponse à la pandémie qu'opère le gouvernement espagnol.
Le confinement, pas défendu par tout le monde, c'est peu de le dire. L'état d'alarme qui l'encadrait a été déclaré inconstitutionnel. Depuis, Madrid marche sur des œufs et espère que le taux de vaccination, parmi les meilleurs du monde, soit un rempart suffisant face à la vague Omicron. Madrid, Mathieu de Taillac. France Inter.
Deux semaines avant des négociations à Genève, Joe Biden et Vladimir Poutine vont de nouveau se parler directement aujourd'hui au sujet de l'Ukraine. Entretien téléphonique prévu ce soir entre les présidents américains et russes. La Maison-Blanche assure vouloir faire baisser la pression en privilégiant, je cite, la voie diplomatique avec Moscou. Le nucléaire peut-il être considéré comme une énergie verte? C'est tout l'enjeu de la décision que doit prendre la Commission européenne sur les investissements durables. La France espère que l'énergie nucléaire en fera partie. Mais d'autres pays s'y opposent fermement. L'arbitrage a été reporté à la mi-janvier. Mais d'ici demain, Bruxelles doit publier un rapport qui donnera une première tendance, Pierre Benazet.
L'enjeu est de taille pour les gouvernements européens, car il s'agit de savoir si les investissements énergétiques seront éligibles dans le plan d'action de l'UE pour les financements durables. C'est l'objet du rapport que doit remettre la Commission européenne à un comité d'experts et aux 27 capitales. Un rapport en attendant la proposition finale qui n'arrivera qu'en janvier. Son retard s'explique en grande partie par les désaccords entre les 27 sur le nucléaire et le gaz. Seuls le Luxembourg et l'Autriche sont fondamentalement opposés à voir le nucléaire figurer comme énergie durable aux côtés des renouvelables. Mais c'est une question cruciale pour le gouvernement français et le reste des États membres de l'UE s'y sont ralliés. Il ne restait plus que l'Allemagne. Lors du dernier sommet européen, le chancelier Olaf Scholz a évoqué la perspective d'un compromis franco-allemand sur ce point. La Commission européenne cherche une formulation qui permette de classer effectivement le nucléaire comme énergie durable. durable sans fragiliser la coalition allemande. Sans aller jusqu'à le qualifier comme le gaz d'énergie de transition, la formule envisagée serait de décrire certains types de centrales comme des technologies de transition. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Il y a quelques jours encore, ils trônaient au milieu du salon.
Au sommet de leur gloire. Mais c'est déjà fini pour les sapins de Noël. Ces jours-ci, certains sont aperçus mourants sur un trottoir, ou mieux dans un point de collecte. Mais que deviennent ceux qui n'ont même pas trouvé preneur avant les fêtes? Les invendus chez les fleuristes ou en grande surface? Eh bien, Faustine Calmel, ils ont parfois un destin inattendu.
Chez cette fleuriste parisienne, quelques sapins n'ont pas trouvé preneur cette année.
C'est la cour où on stocke nos sapins pendant la saison. En reste une dizaine.
Mais pas question de les jeter.
On va en quelque sorte les décapiter en fait, on va couper toutes les branches au niveau du tronc pour pouvoir récupérer le feuillage et continuer parce qu'on est quand même encore dans le thème de l'hiver, donc on peut encore faire des bouquets avec du feuillage de sapin.
Pour cela, il faut le savoir-faire d'une fleuriste, que n'ont pas les grandes surfaces, magasins de bricolage, qui eux aussi vendent des sapins, ou les jardineries. Alors certains passent des partenariats avec des fermes, zoos et parcs animaliers, comme celui de Sainte-Croix en Moselle, qui vient de recevoir gratuitement 150 arbres bien utiles.
Déjà pour l'alimentation d'une série d'animaux.
Anthony Collère, directeur zoologique du parc.
Les élans, par exemple, qui mangent un sapin par élan par jour. Mais on a aussi des espèces comme le grand tétrap qui va manger des épines pendant l'hiver, donc eux aussi vont en profiter. Mais d'autres animaux, comme les chèvres, mais aussi les bisons, ils se battent avec les sapins, ils font voler dans tous les sens avec leur tête et leurs cornes, c'est assez impressionnant. Ils s'amusent beaucoup avec ça et derrière, ce qu'ils n'ont pas consommé, on va le broyer et le valoriser comme ça.
En le déposant en copeaux sur le sol des enclos, une opération anti-gaspi dans laquelle se sont lancées plus d'une dizaine de fermes et zoos en France.
Faustine Calmel. Enfin, en matière de divorce, il faut savoir être patient, très patient parfois. Arnold Schwarzenegger et son ex-compagne Maria Shriver peuvent en témoigner. Plus de 10 ans après leur séparation, un tribunal de Los Angeles vient seulement d'enregistrer leur divorce. Procédure particulièrement longue en raison du patrimoine du couple. Il y avait apparemment beaucoup de choses à négocier.
Merci Alexis Morel, vous revenez demain et ça ne se négocie pas. Vous êtes prévenu, l'édito politique à suivre.